Bonus aux revenants. La forêt expliquée par Bernard Piercot, technicien forestier à l'ONF.
Quand j'explique au public que on travaille au profit de certains petits arbres, mais qui ne font encore que quelques mètres. Alors souvent, la question, pour ne pas dire toujours, mais comment pouvez-vous dire que cet arbre qui est là, pour lequel vous travaillez, sera là encore dans 100 ou 150 ans? Mais je n'en sais fichtre rien. Mais le but, c'est quand même d'avoir les plus beaux arbres possibles, avec l'idée d'avoir les meilleurs produits possibles à la vente. Quand vous allez dans un magasin de bricolage, entre une belle planche bien lisse, bien droite, et un truc à bas prix, mais tordu, fendu, etc., c'est un peu plus cher pour la belle planche, mais vous allez quand même aller vers ce genre de produit. Et ce genre de produit, pour l'obtenir, il faut que le forestier en amont fasse tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à l'arbre d'être de belle venue, belle croissance, peu de défauts, etc. C'est un travail de très longue haleine et avec toujours l'incertitude de la nature, parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut travailler qu'avec la nature. Vous vous adaptez aux éléments qui vous entourent. Donc vous avez un arbre qui est jeune, encore une fois, qui fait 3-4 mètres de hauteur. Vous vous dites, tiens, il est beau, il est bien droit, il n'a pas de fourche, rien du tout. Je vais travailler à son profit. Mais aussi bien 3 ans, 10 ans après, alors il aura grandi, il sera magnifique, un gros coup de neige lourde, paf, il va être tordu, cassé, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? La forêt, Dieu merci, ne manque pas d'arbres, donc on va travailler au profit d'un arbre voisin. Alors quand je dis voisin, ça peut être à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Et on va recommencer jusqu'au moment où enfin on arrivera à un peuplement adulte avec des arbres, peut-être pas magnifiques, mais enfin les plus beaux possibles.
Merci. Et vous veillez à quoi alors autour de l'arbre pour qu'il soit le plus beau possible?
Dans un premier temps, jusqu'à une quinzaine d'années, là, pour le coup, c'est la nature qui se débrouille. C'est la sélection naturelle. Vous avez la régénération naturelle, hein, les semis qui sont là à foison. Hein. Vous pouvez en avoir plusieurs centaines de mille à l'hectare. Donc là, il y a une concurrence effroyable et nous, on regarde. Façon de parler. Dans cette régénération, il peut y avoir ce qu'on appelle des loups. Alors, les loups, ce sont ce qu'on appelle des semis préexistants. Hein, des arbres qui sont apparus parce qu'il y a eu des conditions favorables, et c'est un arbre par-ci, par-là. Mais cet arbre, dans la mesure où il était préexistant, c'était le premier, il a poussé seul, sans concurrence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé ses branches, enfin il a pris une allure de pommier, on va dire. Visuellement, pour un artiste, il est peut-être magnifique, mais pour le forestier, zéro, archi zéro. Et c'est surtout que cet arbre, avec ses branches déjà développées, il est beaucoup plus fort que les autres petits qui arrivent à côté, et c'est du genre, pousse-toi de là que je m'y mette. Là, pour ces loups, on fait intervenir les ouvriers qui coupent ces arbres qui n'ont aucune valeur et aucun avenir pour nous. Et après, donc, quand il ne reste plus, comme je vous disais, ces jeunes semis, on les laisse se débrouiller. Alors au départ, quand vraiment c'est la première ou la seconde année où vous avez ces petits semis très denses, très drus, on appelle ça une brosse de semis. Le langage forestier est très, très visuel, hein, on peut l'interpréter très, très rapidement. Une brosse, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'une brosse. Au bout de 5 ou 6 ans, ces arbres ont poussé. Alors il y a déjà eu énormément de mortalité, pas parce que c'est une lutte de chaque instant, hein, on pourrait dire, entre chaque individu. Et donc ça grandit et on a des arbres, futurs arbres, qui mesurent 2 ou 3 mètres. Et on appelle ça le fourré, hein, le fourré donc impénétrable. Toujours pareil, on laisse faire, la nature fait très bien son travail. Le stade suivant, c'est ce qu'on appelle le gaulie, une gaule, bon, la canne à pêche. Pourquoi? Parce que les arbres ont le diamètre d'une canne à pêche, bon, 1 ou 2 cm près. Et là, l'homme commence à intervenir. Ce sont des travaux. Petite parenthèse, la différence qu'il y a entre les travaux et les coupes, c'est que les travaux nous coûtent de l'argent, elle les coupe, nous en rapporte. Le tout étant d'équilibrer les comptes à la fin du peuplement. Revenons à nos travaux. Dans ce gaulis, c'est encore impénétrable, mais là, il faut que l'homme interviennent pour justement favoriser les premières belles tiges. Les ouvriers forestiers vont passer et quand ils vont voir l'arbre bien droit, peu branchu, surtout pas fourchu, il va travailler à son profit. Alors travailler à son profit, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle maintenant le dégagement en corset. Autrement dit, on coupe les quelques individus autour de cet arbre qui peuvent le gêner dans sa croissance, mais on laisse suffisamment serré pour obliger l'arbre qu'on a sélectionné à monter rapidement vers la lumière, mais étant corseté, il ne peut pas développer de branches. Donc on va avoir à terme un tronc bien lisse, bien droit, qui va nous donner, au moins on l'espère, un produit de bonne qualité. Alors ensuite, ça continue à grossir, à grandir. Du gaulis, on passe au bas-perchi. Le bas-perchi, c'est, on va dire, en moyenne 10 cm de diamètre. Là, on fait encore des travaux. Parce que malheureusement, le bois de 10 cm, on n'en a pas le débouché. Donc on le coupe, il reste sur place. En bordure des chemins, sur une quinzaine, une vingtaine de mètres, des personnes qui me demandent leur bois de chauffage, je parle dans le hêtre bien sûr, me font une partie de ce travail. Je marque le bois qu'ils doivent couper. Ça fait un petit revenu si on veut, mais c'est vraiment une goutte dans l'océan de toutes les finances de l'office. Ensuite, donc du bas perchi, on passe au haut perchi, et là on commence les coupes, avec cet objectif de sélectionner la plus belle tige. Et à partir de ce moment-là, localement, sur les Goiles, on passe en coupe tous les 10 ans, et jusqu'à la fin du peuplement. Alors, petite précision, là, je parle de ce qu'on appelle la futée régulière. Vous coupez un hêtre qui va faire 20 cm de diamètre. L'année suivante, qu'est-ce qu'il se passe sur cette souche ? Il y a des rejets. Prenez un sapin de 20 cm, vous le coupez, qu'est-ce qu'il se passe ?
Ah ben non, il n'y a pas de rejet.
Eh bien voilà. Le taillis, c'est ce qui est issu de souche. Et l'affûté, c'est ce qui est issu de graines. On appelle ça des arbres issus de franc-pieds. Autrement dit, vous avez un résineux, il est obligatoirement issu d'une graine. Que quand vous voyez un hêtre, un faillard, vous ne pouvez pas dire s'il est issu de graines ou de rejets. La hêtrée qu'il y a actuellement sur les Goiles, c'est ce qu'on appelle une futaie sur souche. Parce que à l'époque des reboisements, il y avait encore un peu de hêtre par-ci par-là, mais qui était traité en taillis. C'est le but de mon explication. Donc, quand les eaux et forêts ont acheté, exproprié toutes ces parties de forêt, du taillis, le but était d'obtenir une futaie. Il y avait déjà des arbres en place qui ont été sélectionnés, mais donc sur un taillis issu d'une souche, d'où le terme de futaie sur souche, parce que de nos jours, maintenant vous voyez ces faillards de grosse taille, à part quelques signes qui peuvent vous montrer qu'effectivement ce n'est pas issu de graines, mais je dirais pour le commun des mortels, la hêtraie de l'Égoual est une futaie. Mais ce n'est pas une véritable futaie. La véritable futaie, elle est en train d'arriver. On parlera d'une véritable futaie, justement, dans 100 ou 150 ans. Pour en revenir, là, je vous parle de futaie. Tout ce que je vous ai expliqué, forêt, gaulis, etc., c'est la futaie régulière. Bon, futaie régulière, tous les arbres ont sensiblement le même âge, les mêmes dimensions. C'est pareil, il faut se transposer sur la forêt, 20 ans d'écart, ça ne compte pas. Pour nous, des arbres adultes qui ont 20 ans d'écart, c'est du régulier. Maintenant, on tend vers l'irrégulier qu'on voudrait appeler la futaie jardinée. Alors la futaie irrégulière, c'est quoi ? Eh bien, sur un endroit donné, vous trouvez de tout. C'est-à-dire, vous êtes sur un chemin, vous marchez, vous voyez des semis. Vous faites 30 mètres, tiens, là, il y a de la futaie. Vous faites à 50 mètres, tiens, là, il y a du gaulis. Vous voyez, il y a tous les étages de végétation. Ça, c'est une action qui existe depuis très longtemps dans certaines parties de la forêt française. Et sur les Goiles, depuis le début du siècle, maintenant, on est parti à fond sur l'irrégulier. pour deux choses. La première, je dirais d'ordre économique, c'est qu'en 1999, si vous vous en souvenez, il y a eu cette tempête qui a ravagé la forêt française. Quand vous avez une futaie régulière qui arrive en fin de vie, avec des arbres magnifiques, mais dont on n'a pas encore entrepris la régénération. C'est-à-dire qu'au sol, c'est propre, vous pourriez marcher en pantoufles, un coup de vent, tout se casse à la gueule. Et à la place, qu'est-ce qu'il y a ? Plus rien. Parce qu'il faut savoir que, j'ai bien précisé, pour avoir du taillis, il faut des arbres jeunes. Quand vous avez des arbres vieux, avec des souches qui font 70-80 cm de diamètre, les souches sont trop vieilles, et elles ne peuvent plus produire de taillis. C'est ce qui se produit dans le nord de la France. Il y a des massifs qui ont été ravagés. Et il a fallu recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'il faut planter et protéger les arbres contre les dégâts de gibier, etc., etc. Quand vous avez un massif traité en irrégulier, donc vous avez de tout. Un coup de vent, tous les gros arbres tombent. Mais vous avez toute la régénération qui, elle, de toute manière, ne peut pas souffrir du vent. On attend évidemment que ça grandisse, il n'y a pas grand-chose à faire au point de vue récolte, par contre les travaux perdurent, mais on a toujours ce potentiel qui est là et dont on peut profiter. L'autre côté, je dirais, positif pour le public, c'est qu'il n'a pas l'impression qu'on fait des coupes. Parce que vous-même, vous allez vous balader sur la hêtraie de Montals, bon, il y a des grands, des petits trucs, machin, bon, vous passez... Ah, tiens, ils sont en train de faire une coupe. Les salauds, ils ont coupé le bel arbre, truc, machin. Puis finalement, 3 ans après, vous repassez. Toujours des grands, des petits. Ah bon, oui, tout qu'on te fait, c'est... Alors, la forêt naturelle, enfin, vous la trouverez dans plusieurs années, à la demande du parc. Mais ça, on le faisait déjà depuis très longtemps. Mais c'est un peu plus répandu. Un peu par-ci, par-là, vous trouverez ce qu'on appelle des îlots de sénescence. Termes ronflants, hein, c'est tout simplement des petits bouts de forêt qu'on abandonne complètement. Plus de travaux, plus de coupes, et là, on va avoir la forêt naturelle. C'est-à-dire que vous allez vite comprendre, si un jour vous voulez vous balader ou aller aux champignons, quand vous irez sur les parties où on travaille, vous allez vous balader, c'est propre, mais dans ces îlots de sénescence, alors là, ça va être l'anarchie la plus totale, un arbre qui meurt, qui s'écroule, ça repousse n'importe comment, la ronce qui va s'y mettre dedans, ce sera impénétrable, c'est la forêt vierge. C'est ça la véritable forêt naturelle. Parce que, ça me fait penser à une chose, quand on entend dire avec mes collègues que la forêt est un milieu naturel, mais elle est tout sauf un milieu naturel. C'est la nature, si on veut. Je me répète, c'est elle qui nous commande. Hein, mais on intervient. Parce que si elle était réellement naturelle, mais premièrement, vous n'auriez déjà pas de chemin pour y aller. Et puis ensuite, comme je viens de le dire, l'anarchie la plus totale. Alors, je vous ai dit qu'il y a longtemps, à l'époque des eaux et forêts déjà, il y a des parcelles entières qui étaient complètement abandonnées. Alors peut-être en avez-vous entendu parler, en allant vers le Saint-Guiral, la réserve de Peyrebès. C'est une parcelle de hêtres qui a été complètement abandonnée depuis 1933, c'est-à-dire 90 ans cette année. C'est là qu'on s'aperçoit que ça évolue très lentement, parce que si vous passez par là, cette hêtraie, vous allez vous dire, tiens, on dirait qu'il n'y a pas eu de travaux. Et c'est simple, vous regardez, il n'y a pas plus de souches. Des tas de mousse par-ci, par-là, puisque depuis 90 ans, rien n'a été fait. Donc il n'y a pas de branches, il y a quelques morceaux de bois qui sont tombés à droite, à gauche, mais ça ne donne pas encore l'impression d'une forêt vierge, parce que le hêtre vit très vieux. Donc il va falloir quand même encore pas mal de décennies avant qu'il y ait vraiment la sénescence, la mortalité naturelle. Et évidemment, à partir de ce moment-là, il y a des trouées qui vont se créer et il y a une autre végétation qui va apparaître. Bon, il y aura du hêtre, bien sûr, puisqu'ils vont se régénérer. Mais ensuite, par le biais du vent, des animaux, etc., il y a autre chose qui va apparaître. Je suis fils de forestier et petit-fils de bûcheron, hein, donc autant dire que j'ai toujours trempé dans la forêt. J'étais tout petit, J'avais 4 ans, 5 ans, déjà mon père me confiait une serpe pour fendre le bois, pour faire le bois d'allumage pour le fourneau, pour la cuisine. 4 ans, hein. De nos jours, vous confiez une serpe à un enfant, mais vous allez en prison, quoi. Hein. Et tout ça pour dire que le chêne, qui est bien sec, quand vous le fendez, prenez les deux parties, vous respirez. Ça a une odeur, mais qui n'est comparable à rien d'autre. Si vous voulez, encore maintenant, quand je fends un morceau de chêne, c'est vraiment ce souvenir qui me revient. C'est une émotion, c'est quelque chose d'intraduisible. Le chêne, c'est quand même un arbre qui a un port majestueux de l'écorce rugueuse. Enfin, c'est la puissance, c'est la force, enfin, c'est... L'arbre qui représente le forestier, c'est le chêne. C'est le chêne. Mais le forestier qui n'aime pas le chêne, c'est pas un forestier. Ça se résume à ça. D'ailleurs, sur l'insigne des forestiers, la breloque, qu'est-ce qu'il y a? Une feuille de chêne. C'est l'arbre roi. C'est Saint-Louis qui rendait la justice sous un chêne. On a conservé tous les chênes que nous avons pu conserver. La préférence, le chêne. Mais tous les arbres ont ma préférence aussi, quoi. Hein.